Voilà, si vous vous souvenez, donc nous avions commencé les fois précédentes à examiner la question des les effets du baptême. Donc nous avions vu plutôt le premier de ces effets. Si vous vous souvenez bien, nous avions distingué en gros 6 catégories d'effets du sacrement de baptême. D'abord des effets qui sont toujours produits, c'est d'abord l'incorporation au Christ, et ensuite l'incorporation à l'Église, qui est le corps mystique du Christ, un corps mystique visible du Christ, c'est l'Église. Donc celui qui est incorporé au Christ, eh bien nécessairement est incorporé à l'Église, ça c'est bien clair. Hein. Et l'expression est de saint Paul lui-même, Dieu, c'est dans l'épître aux Éphésiens, Dieu l'a établi, lui le Christ, chef de l'Église qui est son corps. Donc c'est révélé. C'est révélé, c'est dans la révélation. Dieu l'a établi, chef de l'Église, qui est son corps, le complément, la plénitude de son corps. Voilà ce qu'est l'Église, la plénitude, le complément, l'achèvement du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église reprend un peu la même formule dans notamment les ordinations, quand elle ordonne un jeune homme au sous-diaconat ou au diaconat. Elle rappelle bien cette chose, elle dit par exemple au futur sous-diacre, leur conseil d'être toujours de dignes ministres de l'Église de Dieu, c'est-à-dire du corps du Christ. Et identification pour l'Église, l'Église et le Christ, eh bien, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, elle ne fait pas de différence entre les deux. Ou bien encore, dans l'ordination du diaconat, nous vous rendons grâce, Seigneur, de ce que vous avez accordé à ce corps mystique de Jésus, votre Fils, à l'Église, si riche des dons célestes, etc. Oui. L'Église, c'est Jésus-Christ, répandu et communiqué, dit Bossuet. C'est une très très belle formule. Et c'est une des raisons, pour laquelle la tradition est essentielle à l'Église. Oui. Si on peut dire, l'Église, c'est la tradition du Christ. C'est le Christ transmis. Le Christ qui a vécu en Palestine il y a 2000 ans, mais ce Christ qui est remonté au paradis, etc., mais ce Christ, il est revenu ensuite, par le Saint-Esprit, il est revenu par l'Église. C'est donc le Christ transmis de génération en génération, le Christ vivant, présent. Non pas bien sûr, comme il le vivait quand il était dans son corps de chair, mais le Christ tout aussi réellement présent et vivant sur la terre, dans l'Église. Hein. Pourquoi on ne peut pas faire abstraction de la tradition? Ça, c'est essentiel à la vie de l'Église. Hein. Le Christ n'est pas seulement dans la parole révélée, il n'est pas seulement dans la Bible, il n'est pas seulement dans l'Eucharistie, il n'est pas seulement dans les sacrements, il est dans l'Église. L'Église, c'est le Christ. C'est Pie XII hein, qui a, c'est pas une définition dogmatique, mais enfin tout cela est tellement fondé dans la tradition. Pour définir, pour décrire cette véritable Église de Jésus-Christ, celle qui est sainte, catholique, apostolique, romaine, on ne peut trouver rien de plus beau, rien de plus excellent, rien enfin de plus divin, que cette expression qui la désigne comme le corps mystique de Jésus-Christ. Ouais. Et cette encyclique est très belle, hein, vous pouvez la lire, elle n'est pas très difficile. Ouais. Et qu'il reprend d'ailleurs de Léon XIII. Et donc, il cite une encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum. C'est parce qu'elle est un corps que l'Église est visible à nos regards. C'est donc s'éloigner de la vérité divine que d'imaginer une Église que l'on ne pourrait ni voir ni toucher, qui ne serait que spirituel, pneumatique, comme on dit, ouais. Ou charismatique maintenant, on dit plutôt charismatique que pneumatique. Pneumatique, ça fait un peu rigoler, mais pourtant c'est un terme très juste, mais enfin bon, voilà, et charismatique un peu. Ouais. Donc une Église purement spirituelle, dans laquelle, écoutez bien, les nombreuses communautés chrétiennes, bien que divisées entre elles par la foi, seraient pourtant réunies par un lien invisible. Oui, cette Église charismatique qui finalement eh bien, réunirait tous ceux qui croient en quelque chose. Oui. Et ça, c'est une des erreurs fondamentales de notre temps, hein, presque devenu un dogme de l'Église conciliaire, à savoir qu'il y a, les théologiens actuels font une distinction entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Oui, il y a l'Église du Christ, alors ça, ben, c'est l'humanité pratiquement. Puisque le Christ aime tous les hommes, le Christ est mort pour tous les hommes, tous les hommes sont rachetés, vous savez bien, puisque le Christ s'est uni à tout homme, voyez, etc. Donc tout homme est pratiquement racheté, vous voyez, pratiquement. Donc l'Église du Christ, c'est l'humanité. Et puis il y a l'Église catholique, ça, c'est une partie de l'Église du Christ. Ce qui permet justement au Concile Vatican II de dire, par exemple, que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. C'est terrible, ça. Bon, c'est une façon pour l'Église du Christ de subsister, d'exister, mais on peut en imaginer d'autres, oui. Voilà. Donc, toutes les communautés, et là, Pie XII ne pensait qu'aux communautés chrétiennes, mais maintenant, même les bouddhistes et les musulmans, etc., tout cela, plus ou moins appartiennent à l'Église du Christ, oui. Fallait lire un petit peu tout ça, cette encyclique, la Mystici Corporis, donc qui rappelle simplement cette vérité tout à fait traditionnelle, hein, de l'identité entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Il n'y a qu'une Église, il n'y en a pas deux, c'est l'Église catholique. C'est elle qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul corps mystique, il n'y a qu'un baptême, il n'y a qu'une seule Église véritable, et c'est l'Église catholique, il n'y en a pas d'autre. Donc ceux qui sont séparés de l'Église, ce sont des sectes, ce sont des dissidents, ce sont tout ce que vous voudrez, mais ce ne sont pas des églises. Non. Il n'y a qu'une Église. Oui. Bon. Et l'Église catholique, corps mystique de Christ. Alors bien sûr, cette admission, cette incorporation à l'Église doit être d'une certaine façon visible, puisque l'Église est visible. C'est certain que l'Église n'est pas une réalité simplement spirituelle. Et donc cette incorporation dans une société, comme dans toutes les sociétés, eh bien, requiert d'abord l'inscription sur des registres. De même que quand on est, on va se faire inscrire à la mairie ou à la commune, bon, voilà, un truc qui est né tel jour à telle heure, très bien. Eh bien, de même, quand un enfant naît dans le sein de l'Église, hein, quand il est incorporé à l'Église, eh bien, son nom est inscrit sur les registres de l'Église. Et il faut également une sorte d'insigne, ouais, de la société pour reconnaître que cet enfant, que cet être-là appartient à l'Église, oui, cet insigne, eh bien, quel est l'insigne? C'est cette marque, bien sûr, qui n'est pas visible aux yeux, ça c'est clair, hein, cette marque que nous portons sur notre âme, qui est le caractère indélébile. Oui. Nous portons en nous la marque du Christ, l'effigie du Christ. Nous sommes faits vraiment à l'image de notre Seigneur. Et par notre naissance, nous sommes faits à l'image de Dieu, très bien, parce que nous avons une âme intellectuelle, volontaire, c'est bien, mais avec le baptême, nous sommes marqués vraiment à l'effigie du Christ. Nous portons en nous, sur notre âme, le visage du Christ. Ouais. C'est beau cela. Hein, et c'est à cela, bien que l'on reconnaît, non pas de façon extérieure, c'est clair, hein, mais que les baptisés se reconnaissent. Hein. Quand on regarde un baptisé, bien, on doit voir avec l'œil de la foi, au-delà de son visage, au-delà de son aspect extérieur, eh bien, voir un peu sur son âme le visage du Christ. Et oui, c'est une réalité, ça. En tout cas, c'est comme ça que Dieu nous voit. Quand Dieu regarde un de ses enfants, quand Dieu voit un de ses baptisés, lorsqu'il se penche vers l'âme d'un de ses enfants baptisés, il voit dans cette âme, en fait, le visage de son fils, le visage du Christ. C'est magnifique, ça. Ouais. Et c'est pourquoi Dieu le Père, en toute vérité, peut dire sur chacun d'entre nous ce qu'il a dit de son Fils, c'est en lui que j'ai mis toutes mes complaisances. Voilà. Tant que nous portons en nous l'effigie du Christ. Ouais. C'est beau. Bon. Dans la Révélation, notre Seigneur lui-même, dans son entretien avec Nicodème, parle précisément, ouais, d'entrer dans son royaume. Ouais. Il s'agit d'entrer dans son royaume. Il lui dit bien qu'on ne peut pas entrer dans son royaume sans renaître auparavant de l'eau et de l'Esprit Saint, sans le baptême. Donc le baptême nous fait rentrer dans le royaume du Christ. Ce royaume, c'est l'Église. Il a ordonné à ses disciples même, à ses apôtres, pardon, bien d'une certaine façon, de se faire des disciples en baptisant. Oui. Aller enseigner toutes les nations. Docete baptizantes, vous voyez, et cela au sens propre du mot, en grec, vous voyez, docete, enseigner, ça veut dire faites des disciples. Faites des disciples. Et de quelle façon? En les baptisant. Et baptiser un enfant, c'est faire de lui un disciple de notre Seigneur, c'est donc l'introduire dans l'Église. Ou encore, ceci, c'est dans la... C'est dans les Actes des Apôtres. Ouais. Ceux qui crurent à l'enseignement de Pierre furent baptisés et furent introduites ce jour-là dans l'Église 3000 personnes environ. Voilà. Donc c'est bien clair, les Actes des Apôtres disent bien que par le baptême, ces 3000 personnes sont entrées dans l'Église. Et donc, de droit, tous les baptisés, quels qu'ils soient, eh bien, font partie de l'Église catholique. Tous appartiennent à l'Église catholique et donc, l'Église, eh bien, peut les revendiquer comme ses membres. Ils sont effectivement ses membres, ils sont ses fils. Et l'Église, eh bien, réclame précisément, normalement, quand tout va bien, l'Église réclame pour ses enfants, eh bien, la liberté. Eh oui, si on parle de liberté religieuse, voilà la liberté que l'Église doit réclamer et exiger pour ses enfants. Nous sommes membres de l'Église, et bien l'Église, par sa tête, par son chef, par sa hiérarchie, normalement exige et bien qu'on nous laisse la liberté de remplir, mais de remplir nos obligations. De remplir nos obligations. Nous avons des obligations, nous en parlerons peut-être un jour. Il faut que nous puissions les accomplir. Et donc, il faut qu'on nous laisse la liberté d'accomplir ces obligations. Voilà pourquoi l'Église réclame la liberté pour elle. Pas pour les autres, mais pour elle, pour ses enfants, bien sûr. Et elle nous a donné le baptême, elle nous impose des obligations, et puis on se trouverait dans une situation telle qu'on ne peut pas remplir ses obligations. C'est intolérable, cela. Et donc l'Église s'adresse au chef d'État, leur dit, écoutez, laissez nos enfants tranquilles, qu'ils puissent accomplir leurs obligations, qu'ils puissent aller à la messe le dimanche, qu'ils puissent ceci, etc. Voilà. Et c'est pourquoi également, une question sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, parce qu'on en a pas mal parlé déjà, c'est pourquoi également l'Église se bat pour l'éducation catholique. Pour l'éducation catholique, parce que le baptême donne à cet enfant baptisé des obligations. Et il faut lui donner une éducation qui soit en conformité avec ce baptême qu'il a reçu, que cet enfant puisse effectivement grandir dans la foi, dans un climat de foi, dans une ambiance de foi, et qu'on l'aide, du matin jusqu'au soir et du soir au matin, eh bien, à accomplir ses obligations de chrétien. Pourquoi l'Église réclame des écoles catholiques? Bon, et je ferme la parenthèse. Eh oui, bon, enfin. Identité du Christ et de l'Église. Et on n'est pas du Christ, et il faut faire attention à cela. On n'est pas du Christ. On ne peut pas dire être attaché au Christ si on n'est pas de l'Église. L'Église et le Christ ne font qu'un. Et l'Église et son corps et sa plénitude, nous a dit saint Paul. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit aussi de ses apôtres, où il a dit à ses apôtres, eh bien, qui vous écoutent, m'écoutent, qui vous méprisent, me méprisent. Oui, identité entre l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens n'ont pas deux maîtres, nous n'avons qu'un seul maître qui est le Christ. Et l'Église, c'est le Christ. Donc nous écoutons l'Église pour écouter le Christ. Eh oui, je dis bien l'Église. Attention, je dis bien l'Église. Alors c'est sûr que nous sommes actuellement dans une situation un petit peu délicate, je vous l'accorde très très volontiers, mais il s'agit précisément de ne pas tout confondre, hein. Il ne s'agit pas de confondre la hiérarchie et l'Église. Bon, le pape et l'Église, ce n'est pas la même chose. Hein. Le pape n'est pas l'Église. Le pape est membre de l'Église. Il est membre de l'Église, pas tout à fait comme les autres, je veux bien, c'est le premier des membres de l'Église, c'est le vicaire du Christ, mais il n'est pas le Christ. Le pape n'est pas l'Église. L'Église, c'est nous tous avec le pape. Et ce que nous écoutons, c'est l'Église. Oui, c'est bon, voilà. Là-dessus, je pense que vous connaissez un peu cela, mais je vous inviterai également à... C'est une lecture très, très éclairante et très, 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 très bienfaisante dans nos temps de misère. Hein. C'est ce petit volume du Père Calmel, hein, sur la brève apologie pour l'Église de toujours. C'est une merveille, merveille de clarté, de précision, de lucidité. Hein. Et une vision très, très catholique de l'Église, justement, très équilibrée, hein, ni trop, ni pas assez. Quelques lignes, si vous voulez, de ce bon Père Calmel. Il est un chef de l'Église, toujours infaillible, toujours sans péché, toujours saint, ignorant toute intermittence et tout arrêt dans son œuvre de sanctification. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Et celui-là, bien sûr, c'est le Christ. Ce n'est pas le pape. Eh oui. Celui-là est le seul chef, car tous les autres, y compris le plus élevé, ne détiennent d'autorité que par lui et pour lui. Et ce chef saint et sans tache, absolument à part des pécheurs, élevé au-dessus des cieux, ce n'est point le pape, c'est celui dont nous parle magnifiquement l'Épître aux Hébreux, c'est le souverain prêtre Jésus-Christ. Jésus, notre Rédempteur, par la croix, avant de monter aux cieux, de devenir invisible à nos regards mortels, a voulu établir pour son Église, en plus et au-dessus des nombreux ministres particuliers, un ministre universel unique, un vicaire visible, qui est seul à jouir de la juridiction suprême. Bon, c'est vrai. Or, si le pape est le vicaire visible de Jésus qui est remonté dans les cieux invisibles, il n'est pas plus que le vicaire. Vices gerens. Il tient lieu, mais il demeure autre. Il tient lieu, il tient la place du Christ, Il n'est pas le Christ. Attention, il gère la puissance du Christ. Mais cette puissance n'est pas à lui, elle est au Christ. Attention. Hein. Ce n'est point du pape, et tout ça c'est des choses évidentes, ce n'est point du pape que dérive la grâce qui fait vivre le corps mystique. Ce n'est pas du pape qu'elle dérive la grâce. La grâce, pour lui, pape, aussi bien que pour nous, dérive du seul Seigneur Jésus-Christ. La grâce, l'auteur de la grâce, c'est le Christ, c'est pas le pape. Ouais. Et oui. Et donc, il ajoute, et c'est très très juste tout cela, oui, sinon on déraille. Il faut que notre vie intérieure soit référée à Jésus-Christ et non pas au pape. Il faut référer notre vie intérieure au Christ et à l'Église et non pas au pape. Notre religion, c'est pas le pape. Et c'était le drame de... Comment il s'appelait, là, celui qui est mort l'année dernière, là, Frossard. Hein, ce juif converti, hein, Frossard, pour lui, il a été converti par Jean-Paul II. Et la religion, pour lui, c'était Jean-Paul II. Ben, c'est un peu court, moi, je suis désolé, parce que maintenant il est mort, et de l'autre côté, ben, c'est pas Jean-Paul II qui l'a rencontré. Hein. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Alors, moi, bon, j'espère que ça s'est bien passé pour lui, ça c'est autre chose, mais ici, là, il y a un désordre. Oui, attention. Donc il faut que notre vie intérieure soit référée à Jésus-Christ, que notre vie intérieure, embrassant le pape et la hiérarchie, cela va sans dire, soit établie non dans la hiérarchie et le pape, mais dans le pontife divin. Et il a cette formule que je trouve délicieuse, mais qui dit tout en très peu de mots, l'Église n'est pas le corps mystique du pape. L'Église n'est pas le corps mystique du pape. L'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Il y a une différence quand même. Ce qui n'empêche pas que le pape, il a une place tout à fait unique et privilégiée dans l'Église. C'est évident, ça. Attention, hein. Mais attention, hein. L'Église avec le pape est le corps mystique du Christ. Voilà, très bien, ça va bien. Et lorsque la vie intérieure des chrétiens est référée à Jésus-Christ, et c'est très juste qu'il dit là, oui, et à ce moment-là, eh bien, il ne tombe pas désespéré. On n'est plus tenté par le désespoir. Ouais. Si notre vie est vraiment référée à Jésus-Christ, ben, il peut se passer n'importe quoi, à la limite dans l'Église, ben, ma foi, ça ne nous empêchera pas de croire en Jésus-Christ et de garder confiance. Ouais. Donc il ne tombe pas désespéré, même lorsqu'il souffre jusqu'à l'agonie des défaillances d'un pape, que ce soit Honorius Ier ou les papes antagonistes de la fin du Moyen-Âge, etc. Et oui, lorsque Jésus-Christ est le principe et l'âme de la vie intérieure des chrétiens, il n'éprouve pas le besoin de se mentir sur les manquements d'un pape pour demeurer assuré de ses prérogatives. Ils savent que ces manquements n'atteindront jamais à un tel degré que Jésus cesserait de gouverner son Église parce qu'il en aurait été efficacement empêché par son vicaire. Non, ça ne peut pas arriver, cela. L'obéissance chrétienne ne peut, ni toujours, ni en tout, identifier le pape à Jésus-Christ. Et il faut faire attention, ça, c'est sûr. Une formule d'un bon théologien, pourtant, hein, mais qui est un peu exagéré, je pense, qui dit que le pape transcende tout. Attention. Non, c'est pas vrai. Le Christ transcende tout, mais pas le pape. Mais non, le pape, il est soumis au Christ. Le pape, il appartient au corps mystique de Jésus-Christ. Il en est un des membres, le premier, le membre le plus éminent, mais il n'est pas le corps mystique. Bon, enfin, petite chose qu'il est peut-être bon de se rappeler de temps en temps, parce que on peut être un peu troublé par tout ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas être troublé. L'Église est toujours le corps mystique de Christ. Quel que soit son état apparent, quelle que soit son extension, quel que soit le nombre de ses enfants apparents, l'Église est toujours le corps mystique de Christ. Donc ce qu'il faut, eh bien c'est garder, conserver justement cette incorporation à l'Église qui nous a été donnée au baptême gratuitement. Hein. Et nous n'avons qu'un maître, encore une fois. Notre maître, c'est Jésus-Christ, et notre maître, c'est l'Église. En espérant que le pape sera effectivement fidèle serviteur de son maître et de l'Église. Bon, mais si jamais il ne l'est pas, eh bien, écoutons l'Église. Simple. Et l'Église, eh bien, c'est toute l'Église. Hein. C'est pas simplement l'Église de 1996, hein. c'est toute l'Église, hein. L'Église éternelle. Alors là, c'est facile. Enfin, on y voit à peu près clair, en tout cas. Et donc, ce premier, ça, c'est la base de tout, bien sûr, hein, cette incorporation à l'Église. Et cette incorporation à l'Église, bien sûr, eh bien, nous ouvre. Non seulement elle nous donne des obligations, dont nous parlerons, mais en plus, elle nous ouvre la porte à des bienfaits incommensurable. Hein, cette participation au bien de l'Église, et ça, c'est un trésor dont je ne sais pas si nous avons tout à fait conscience. Hein. C'est ces richesses qui sont à la disposition du baptisé simplement par le fait de son baptême et dès le jour de son baptême. Et quels sont ces trésors? Eh bien, c'est le sacerdoce de l'Église, c'est le culte de l'Église, les lois de l'Église même. C'est un trésor pour nous d'avoir des lois. Et oui, savoir dans quelle direction marcher. C'est la doctrine de l'Église, son infaillibilité, même toutes ces prérogatives de l'Église, les sacrements, les sacramentaux, les indulgences, la communion des saints. Et comment voulez-vous qu'on se perde avec ça? C'est pas possible. On ne peut pas se perdre avec ça. C'est vrai, on ne peut pas se perdre avec ça. Normalement, si on réalise, vous voyez, véritablement tous ces trésors qui sont là à notre portée, mais et si on y croit, et si on essaie d'en vivre, bon, avec ce qu'on est, avec ses faiblesses et ses limites, on ne peut pas se perdre. C'est pas possible, ça. Et il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Hein. Question du petit nombre des élus. On en parle beaucoup dans les retraites, ça, c'est le petit nombre des élus. Alors, bon, bien sûr, il faut bien flanquer un petit peu la pétoche à tout le monde pour que ça, c'est... Mais vous savez, là-dessus, bah, on verra ça quand on y sera. Hein. Moi, on fera le compte là-haut, quand on sera... Bon, d'ici là, moi, je ne peux pas vous dire combien il y en a d'élus et combien de damnés. Même l'écriture n'est pas très, très explicite là-dessus. On peut tout faire dire à l'écriture, vous savez. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, bon, c'est 50%. Bon. Celui qui est renvoyé dans les ténèbres extérieures, il y en a un sur tout un banquet, il n'y en a qu'un. Bon. Et puis après, bon, tout à l'heure, on peut tout interpréter un petit peu dans tous les sens. Alors moi, on verra qui a raison quand on sera là. Le tout, c'est d'être sauvé. Bon, le reste. Hein. Et c'est. Mais en tout cas, la doctrine assez. Bon, la commune, c'est que quel que soit le nombre des élus, etc., même si on admet le petit nombre des élus, cela vaut pour l'humanité, l'ensemble de l'humanité. Hein. Mais là, la doctrine habituelle, commune quand même, c'est que parmi les baptisés, attention, les baptisés, c'est autre chose, le plus grand nombre se sauve. Quand même, à quoi servirait le baptême et l'Église sinon? Ouais, si on ne fait pas mieux que les autres, non. Ça, c'est la doctrine commune. Voilà, il faut bien distinguer ceux qui sont baptisés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont baptisés, quand même, c'est quand même la plus grande partie qui arrive au salut. Bon, courage. Donc le premier des biens, vous disais-je, eh bien, c'est précisément le sacerdoce de l'Église, c'est les fruits du sacerdoce de l'Église. C'est ça, je crois qu'il faut le réaliser pour chacun d'entre nous, nous, prêtres, et puis vous, fidèles. Ouais. Eh bien, c'est que donc dans l'Église, il y a des hommes qui sont consacrés, choisis par l'Église pour représenter l'Église auprès de Dieu. Le prêtre est médiateur, hein, médiateur entre Dieu et les hommes. Et qui représente-t-il auprès de Dieu? Eh bien, le prêtre représente l'Église. Il représente donc le prêtre, tous les membres de l'Église. Chaque fois que le prêtre monte à l'autel, chaque fois que le prêtre ouvre son bréviaire pour dire l'office divin, eh bien, il représente toute l'Église et tous les membres de l'Église auprès de la majesté de Dieu, auprès du trône de la Sainte Trinité. Ouais, c'est au nom, d'abord, c'est d'abord au nom de tous les baptisés, bien que le prêtre parle à Dieu, qu'il chante les louanges de Dieu, qu'il offre le sacrifice d'adoration, sacrifice d'action de grâce, d'expiation, de demande. Ouais, c'est au nom des fidèles que le prêtre dit le bréviaire. Et oui, chaque fois où il y a un prêtre qui dit son bréviaire, ben, je dirais laissez-le prier. Laissez-le prier, il parle en votre nom ensemble. Ce n'est pas pour lui qui prie, bon, pour lui aussi, bien sûr, mais c'est pour toute l'Église. Oula, bon. Voilà, il y a l'ambassadeur qui est en train de parler pour moi, à ma place, au bon Dieu, bon, laissons-le parler, quand il aura fini, bon, on verra. Et c'est vrai, ça, et je pense, et c'est beau, c'est réconfortant, c'est encourageant pour nous tous. Ouais. Et le prêtre, et ça, c'est une chose qui est vraie, hein. Et quand il parle à Dieu, il ne parle qu'au nom des baptisés. Lorsque je prie, j'accomplis mon office sacerdotal à la messe ou le bréviaire, l'office divin, donc je représente, je suis l'ambassadeur, je suis le plénipotentiaire, dites comme vous voudrez, peu importe, des baptisés, pas des autres. Je ne représente pas les infidèles auprès du trône de Dieu. Non, non. Je représente, eh bien, ceux qui sont les membres de l'Église. Je suis, moi, membre de l'Église, député pour adresser à Dieu cette louange, et au nom de qui je parle, eh bien, de tous ceux qui sont membres de ce corps, ceux qui sont incorporés à l'Église, pas au nom des autres. Je peux prier pour eux, peut-être, bon, ça d'accord, mais je ne les représente pas. Je ne représente que les baptisés, pas les autres. Eh oui, tout à fait. Et chaque fois que nous, vous voyez, chaque fois qu'un prêtre, ça, c'est une chose que vous pouvez vous dire, eh bien, c'est que même si vous n'avez pas toujours le temps de prier autant qu'il le faudrait, d'aller à la messe, de communier, etc., bon, ça, c'est bien clair, hein. Eh bien, vous pouvez vous dire, eh bien, que toutes les messes qui se célèbrent, eh bien, d'une certaine façon, vous les offrez également. Vous les offrez par le ministère des prêtres, eh bien, le prêtre offre la messe au nom de toute l'Église, oui. Et donc il l'offre en votre nom. Et donc, d'une certaine façon, vous êtes présent dans la prière que le prêtre adresse à Dieu à l'autel ou à l'office divin. Oui. Toutes les prières liturgiques sont les prières de tous les membres de l'Église, de tous les enfants, de tous les baptisés. Oui. C'est beau cela, je trouve, moi, je ne sais pas, je trouve. C'est d'y penser, c'est pourquoi on vous conseille généralement, souvent, bon, bien sûr, on ne peut pas toujours aller à l'église, à la messe, prier autant qu'on voudrait, mais de temps en temps, peut-être, essayer, bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais essayer de s'unir un petit peu par l'esprit, justement, aux messes qui se célèbrent en ce moment. Bon, on ne sait pas où, mais en tout cas, hein, à la surface du globe, il y a sans doute une messe qui est en train de se célébrer, et donc, en ce moment, il y a un prêtre qui intercède pour moi. Voilà, il est à l'autel et... Au nom de qui prie-t-il le bon Dieu? En mon nom. Merci mon Dieu. C'est bien ça. Oui. Eh oui. Alors même si le nombre des ambassadeurs a diminué, il y a encore quand même pas mal d'ambassadeurs, non seulement chez nous, mais même chez les autres quand même. Tous ne sont pas encore... voilà. Hein. Tous n'ont pas tout abandonné, comme il y a encore pas mal d'ambassadeurs. Et donc, vous voyez, toutes ces prières qui finalement sont les nôtres, sont les vôtres, oui, et qui sans cesse montent ainsi vers le cœur du bon Dieu, oui, en votre nom. Oui, c'est la louange que vous voudriez adresser à Dieu, que vous ne pouvez pas adresser à Dieu parce que vous êtes occupé à autre chose, eh bien, c'est cette louange qui monte vers Dieu quand même par le ministère des prêtres. Les prêtres ou les religieux, oui, ceux qui sont donc députés à l'office divin. Donc d'abord, il y a cette prière de l'Église, oui, cette prière donc, des ministres de l'Église, au nom de l'Église, oui, au nom des membres de l'Église. Et puis, il y a également la prière qui est faite, bien sûr, non seulement au nom des baptisés, mais encore au profit des baptisés, bien sûr. Non seulement l'Église prie en votre nom, mais en plus, l'Église prie pour vous. C'est évident, hein, il y a cette prière qui est faite au profit des baptisés. Et si le prêtre sollicite auprès du bon Dieu des grâces, bien sûr, eh bien, c'est avant tout pour ceux dont il est le ministre. Je suis le représentant des fidèles, eh bien, c'est d'abord pour eux que je prie, bien sûr. C'est pour eux que je demande des grâces. Je pourrais en demander pour d'autres, je pourrais implorer la miséricorde du bon Dieu pour d'autres, pour des pécheurs, etc. Mais c'est d'abord pour ceux dont je suis le ministre. Et, oui, c'était cette question de la juridiction, oui, du troupeau. Oui, un évêque, un curé, eh bien, il avait juridiction sur le troupeau, sur sa paroisse. Et donc, il était vraiment, oui, le ministre officiel, oui. De ce petit troupeau dont il a la responsabilité, donc il prie en leur nom, mais il prie également pour eux. Ouais. Combien de fois dans l'année, par exemple, le curé était tenu de célébrer la messe pro populo, pro pour ses fidèles. Ouais. Donc le prêtre montait à l'autel, non seulement pour les représenter, mais encore pour prier à leur intention. Ouais. Le curé doit, de temps en temps, et souvent dans l'année, offrir le sacrifice de la messe pour ses fidèles, pour son troupeau. Ouais. Et c'est pourquoi, bien souvent, dans les prières, vous trouvez, les prières de l'Église, vous trouvez le pluriel. Et combien de fois le prêtre, ne prie pas qu'en son nom, ne prie pas que pour lui, il prie au pluriel. Oui. C'est constant, prenez les collectes, les oraisons de la messe, etc. C'est tout le temps, pratiquement, au pluriel. Oui. Quelques exemples, là. Nous vous supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de faire que... Après avoir achevé la célébration des fêtes pascales, nous retenions, avec le secours de votre grâce, l'esprit de ces solennités dans nos habitudes et dans notre vie. Bon, mais pour qui prie-t-il? Ce nous, qui est-ce? Eh bien, c'est tous ceux dont le prêtre a la responsabilité, tous ceux dont il est le ministre. Oui. Donc, il demande à Dieu, eh bien, que tous ceux dont il est le pasteur, eh bien, retiennent l'esprit de ces solennités dans leurs habitudes et dans leur vie. Oui. C'est constant. Et chaque fois que le prêtre demande quelque chose, eh bien, il le demande finalement pour tous. Donc, il prie au nom de tous et il prie pour tous. Et c'est ces trésors qui sont attachés tout simplement au sacerdoce de l'Église, ce sacerdoce donc ministériel qui est celui de l'Église, qui est celui des prêtres. Et, mais il est évident, que ce ministère sacerdotal, eh bien, vous invite de façon très, très, très pressante, bien sûr, à vous y unir d'une façon active. Hein. C'est toute la question dont on peut discuter, hein, mais de la participation, justement, active des fidèles au culte divin, aux cérémonies de la messe. Il ne s'agit pas de laisser le prêtre tout seul à l'autel et puis prier pour nous ou prier en notre nom. Bon, bien sûr, il le fera, il le fait volontiers, il est content de le faire. Il aura sans doute une certaine efficacité, mais sans doute, cela aura-t-il plus d'efficacité si les fidèles présents, eh bien, participent en plus, s'unissent à cette prière, unissent leur voix et adoptent les attitudes qui sont prescrites, justement, et donc s'unissent véritablement, activement, physiquement, si l'on peut dire, à cette prière qui se fait à l'autel. Ouais. Nous avons un représentant, nous avons un ministre qui parle en notre nom, eh bien, parlons-nous aussi avec lui, voilà, avec lui. Participons donc un petit peu justement à ce culte divin. Et ça, c'est le deuxième bienfait que l'Église nous accorde ou auquel elle nous introduit. Eh bien, c'est précisément le culte chrétien. Ouais. Et ça, c'est un privilège des chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Seuls les chrétiens, seuls les baptisés, donc, peuvent véritablement offrir le saint sacrifice de la messe avec le prêtre visible. Et avec le prêtre invisible. Pour cela, il faut être baptisé, il faut être gravé et porté sur son âme le sceau du baptême, donc le caractère baptismal. Et celui qui n'a pas le caractère baptismal ne peut pas participer au culte divin. Il ne peut pas. Il peut y assister de loin, regarder les cérémonies, mais comme un spectateur, pas comme un acteur. Alors que le baptisé, lui, il rentre véritablement comme un acteur dans les grandes cérémonies du culte divin. Et oui, ça nous ramène un peu, vous voyez, à cette incorporation avec notre Seigneur. Oui. Bon, bien sûr, je pense surtout à la messe, c'est évident. Oui. L'offrande que fait notre Seigneur à la messe de lui-même, eh bien, cette offrande inclut les offrandes des fidèles baptisés. Tous les baptisés sont incorporés, d'une certaine façon, à l'offrande que fait notre Seigneur. Et notre Seigneur ne présente que les offrandes des baptisés, pas les autres. Même si un non-baptisé fait une offrande, c'est son offrande personnelle. Elle ne peut pas passer par celle de Christ parce qu'il n'est pas incorporé. Il n'est pas membre du corps de Christ. Alors, ma foi, c'est une autre offrande, mais ce n'est pas celle de Christ. Alors que le baptisé qui est là, qui s'offre avec Jésus-Christ, alors là, ça y est, son offrande est prise dans celle de Jésus-Christ et c'est l'offrande de tout le corps donc, qui est présenté par la tête qui est Jésus-Christ. Donc, même chose pour les adorations, les actions de grâce, les demandes que peut faire un baptisé dans un acte de culte, et bien tout cela est pris en charge par la prière, la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est très net ça. Hein. Si vous regardez un peu les prières de la messe, il y aurait tout un travail à faire là-dessus, hein, mais faites-le de votre côté. Ouais. Vous verrez hein, que le... C'est curieux, hein. Dans toutes les prières de la messe, toutes les prières de la messe sont faites uniquement pour l'Église. Jamais, au cours de toutes les prières de la messe, on ne prie pour quelqu'un d'autre que pour les membres de l'Église. Eh oui. Et qu'est-ce que vous voulez? Le sacrifice de la messe, qu'est-ce que c'est? C'est le sacrifice du Christ, c'est le sacrifice du chef, de la tête, c'est le sacrifice du corps. Il ne peut profiter qu'au corps, qu'aux membres du corps. Ne peut pas profiter aux gens qui restent étrangers au corps, qui refusent de rentrer dans ce corps. Ça peut pas leur servir directement à eux. Ça peut pas. Oui. Bon. Voilà. Regardez les prières de l'offertoire, par exemple. Ces prières sont très belles. Alors, il y a juste une toute petite exception. Vous allez voir, là, quand même. Oui, l'Église n'est pas complètement repliée sur elle-même, quand même. De temps en temps, elle pense un petit peu aux autres. Oui. Les prières de l'offertoire, c'est très beau, l'offertoire. C'est pourquoi c'est un drame, hein, ce saccage de l'offertoire qui a été fait dans l'ordo de Paul VI, là. C'est peut-être la chose la plus grave hein, dans la nouvelle messe. Hein. C'est ce nouvel offertoire qui n'est pas un offertoire, parce qu'il ne fait pas référence à l'offrande du Christ, il ne fait pas référence au sacrifice du Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers, etc. Bon, c'est très bien, c'est gentil, mais c'est pas catholique, ça. Bon. Alors que notre offertoire, c'est magnifique, qui précisément détermine bien quelle est la finalité du sacrifice, pourquoi on offre le sacrifice, pourquoi, pour qui l'offre-t-on? Eh bien d'abord, le prêtre prie pour lui. Voilà, mais oui, c'est très humiliant pour le prêtre, mais c'est bon d'être humilié. Voilà, cette hostie immaculée que moi, votre indigne serviteur, je vous offre à vous, le Dieu vivant et vrai, pour mes innombrables péchés, mes offenses et mes négligences. Eh oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais attendez, c'est pas tout, il n'y a pas que ça, même. Mais également pour tous ceux qui m'entourent, et omnibus, pro omnibus circumstantibus, pour tous ceux qui sont présents ici. Oui, bon. C'est d'être pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quodifundis, mais également pour tous les fidèles chrétiens vivants et défunts. Voilà, les chrétiens et pas les autres. Les fidèles chrétiens. Voilà, l'Église présente à Dieu, donc offre cette hostie qui va devenir le corps du Christ. Elle offre cette hostie pour qui? Pour les chrétiens fidèles, vivants et défunts, pas pour les autres. Et c'est son sacrifice à elle, qu'est-ce que vous lui faites? Alors, quand même, vous voyez, bon, il y aurait bien des choses à dire sur cet offertoire, mais faut pas trop traîner quand même. Vous voyez, c'est pratiquement dans l'offrande de l'hostie, c'est l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'offrande de tout le corps mystique qui est réalisé. Et alors ensuite, quand le prêtre va offrir le calice, voyez, le calice qui est le calice du sang, et le sang est répandu pour tout le monde. Pas uniquement, bien sûr, hein, pour les membres de l'Église. Et donc, c'est pourquoi, le prêtre, l'Église, du moins, ajoute une petite mention. Hein, nous vous offrons ce calice salutaire de suppliant votre clémence afin qu'il monte avec une odeur de suavité jusque devant votre divine majesté, pro nostra et totius mundi salute. Voilà, c'est la seule fois où l'Église regarde un petit peu autour d'elle, vous voyez. Et donc, elle demande que ce calice serve à notre salut et à celui du monde entier. Et ça, c'est toute la question justement, de l'effusion du sang du Christ. Ouais. C'est la même chose que nous retrouvons d'ailleurs plus tard au moment du canon. Ouais, au moment du canon, quand le prêtre consacre l'hostie, ben, l'hostie, c'est le corps du Christ. Et tout. Donc, l'hostie, c'est l'Église. C'est le corps du Christ. Alors que le sang, bah oui, la formule est plus développée, hein, le calice de mon sang, nouveau éternel testament, mystère de foi, qui provobis et promultis et fondetur in remissionem peccatorum. Bon, mais promultis, attention, hein, pas pro omnibus, hein, pour beaucoup, et pas pour tous. Et bien sûr, le Christ a versé son sang en soi, pour le salut de tous les hommes, mais combien, effectivement, vont recueillir les gouttes, quelques gouttes de son sang pour être sauvés? Ben, pas tous, malheureusement. Et donc, effectivement, ce sang n'est pas versé pour tous. Pour beaucoup, sans doute, mais pas pour tous. Eh oui. Vous voyez, donc, là, dans le culte chrétien, c'est vraiment cette la prière de l'Église, vous voyez, cette solidarité très, très, très intime, très, très puissante, vous voyez, entre eux, ben, tous les membres de l'Église autour de leur chef, autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Alors, bien sûr, un infidèle, un non-baptisé peut très bien assister à nos offices. Bon, il peut être ému, peut-être, il peut être porté peut-être à prier, cela peut arriver, ça c'est arrivé déjà, grâce à Dieu, oui, que des non-baptisés, eh bien, soient touchés, soient émus, soient ébranlés un petit peu, mais leur prière reste la leur, ça reste une prière individuelle, privée, leur prière n'est pas la prière de l'Église. Oui. Alors, ça peut les conduire à l'Église. Gracias, le bon Dieu peut se servir de ça pour les faire avancer, leur donner le désir justement de rentrer dans le corps mystique, de demander le baptême. Mais tant qu'ils n'ont pas reçu le baptême, eh bien, ils restent un petit peu étrangers à tout ce bénéfice de grâce de la prière et du culte de l'Église. Parce que, eh bien, il n'a pas d'ambassadeur, si on peut dire. Il n'a pas d'ambassadeur accrédité auprès de Dieu. Il ne peut parler qu'en son propre nom. Voilà, il lui manque cet ambassadeur. Alors, on peut prier pour lui, mais lui, il est tout seul à prier. L'Église, vous voyez, n'est pas, le prêtre qui est là n'est pas son ministre, n'est pas son ambassadeur. Vous voyez. Alors, oui, un petit peu, je dirais, c'est cette puissance de la liturgie. Vous voyez, quand on imagine, et comment dire cela? Et quand toutes nos prières, on a l'impression que nos prières ne servent à rien. Moi, je prie, machin, truc, etc. Ça fait des années que je demande telle et telle grâce. Je dis le chapelet, je fais le chemin de croix, ceci, cela, je fais des sacrifices, je fais des aumônes. Très bien, continuez. c'est pas perdu tout ça, attention, il ne faut pas se décourager. Mais tout cela, vous voyez, tout cela n'a que votre propre puissance à vous. Alors qu'un acte liturgique, un acte liturgique à la puissance du Christ. Il vaut mieux assister à la messe, communier, se confesser. Alors là, ça y est, là vous rentrez vraiment, vous voyez, dans le corps, dans la prière du Christ, et là c'est le Christ qui intercède pour vous. C'est lui qui parle en votre nom. Et peut-être que ça va marcher. Je ne sais pas, j'en sais rien. Ce n'est pas toujours automatique non plus. Mais c'est toutes nos pauvres petites prières à nous, qu'est-ce que vous voulez ? Elles n'ont pas beaucoup de vigueur. Alors, bon Dieu, bien sûr, le bon Dieu les écoute. Mais ces prières sont infiniment moins puissantes sur le cœur de Dieu que la prière de l'Église et la prière du Christ. Et la prière de l'Église, c'est la liturgie. L'Église n'a pas d'autre prière que la liturgie. La prière du corps mystique, c'est la liturgie. C'est la messe, c'est l'office divin et ce sont les sacrements. Voilà, la prière de l'Église, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et un chemin de croix, par exemple, c'est très bien de faire, mais ce n'est pas la prière de l'Église, c'est une prière privée, personnelle. Le chapelet, c'est une prière personnelle, etc. Tout ça, ce n'est pas vraiment la liturgie de l'Église. Pourquoi il faut avoir vraiment ce culte, cet amour de la liturgie? C'est la vraie prière chrétienne, c'est la prière liturgique. Ça n'exclut pas les autres prières, attention, il ne faut pas faire de dialectique. Bon, mais ça, c'est les autres prières que nous faisons prolongent, complètent, à titre plus personnel, les autres prières, la prière de l'Église. Mais il y a au cœur de tout cela, de toutes nos prières, il doit y avoir d'abord cette force, cette puissance, qui est celle de la liturgie, qui est celle de la prière de l'Église. C'est pour ça que nous sommes baptisés, pour nous permettre de rentrer, justement, dans cette grande prière de l'Église, et bénéficier ainsi des fruits du sacerdoce de l'Église. Ensuite, troisième bienfait que l'Église nous accorde, qu'elle accorde à tous ses membres, c'est une certaine, là il faut faire attention bien sûr, une certaine participation à son propre sacerdoce. Et oui, peuple de prêtres, peuple de rois. Et oui, tout prêtre, dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, est pris d'entre les hommes et établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir les oblations et le sacrifice. Et c'est tout. Et ce sacerdoce, bien sûr, c'est le Christ lui-même qui réalise pleinement cette définition du prêtre, le prêtre qui est médiateur, le prêtre, essentiellement, bien sûr, c'est le Christ, ça c'est clair, qui communique son sacerdoce ministériel aux prêtres, donc à ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre. Mais également, il en communique une certaine participation à tous les baptisés. Et c'est de là, d'ailleurs, que vient le mot chrétien, Christ. Vous savez sans doute que Christ, ça veut dire « oint », du verbe « oindre ». Celui qui est oint, il reçoit l'onction. Le Christ, c'est celui qui est oint, qui est sacré, qui est consacré, en vue des fonctions sacerdotales. Et chrétien, ça vient de Christ. Chrétien, ça vient de Christ. Et donc, tous les chrétiens sont des oints. Et oui, bon, sont des consacrés, sont des sacrés. Et cette notion de chrétien, pourquoi nous appeler chrétiens? Précisément, ça manifeste bien ce sacre, cette consécration qui est celle de tous les baptisés. Et ça exprime donc cette idée de sacerdoce. N'oubliez pas que nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Rappelez-vous ce que dit saint Paul. Nous avons été ensevelis dans la mort du Christ, etc. Le caractère sacerdotal, disions-nous, la fois précédente, ça monte à loin, mais essayez de vous rappeler un peu, nous incorpore à la passion du Christ, au Christ prêtre, et il est prêtre dans sa passion, il est prêtre sur la croix. Donc le caractère baptismal, c'est d'une certaine façon les stigmates de la passion, qui sont gravés dans notre âme. Donc incorporés à la passion, nous sommes ainsi associés au sacrifice, et donc au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet effet du baptême, je ne dis pas qu'il est ignoré, mais ça nous fait parfois un peu peur. Ici, un auteur dit bien justement pourquoi on a peur de parler de ça. C'est à cause des protestants. Il n'y a pas eu qu'eux, mais il y en a eu d'autres. Les protestants. La nécessité où nous a mis le protestantisme, en niant l'institution divine du sacerdoce hiérarchique, bien sûr, c'est une chose que nient les protestants. Ce sacerdoce ministériel, il n'y a pas les prêtres, les pasteurs ne sont pas prêtres, ils ne reçoivent pas cette consécration ministérielle. Donc cette nécessité où nous a mis le protestantisme en niant l'institution divine du sacerdoce hiérarchique, donc nécessité d'insister sur son caractère propre et exclusif, donc il a fallu justement pour réfuter cette hérésie protestante, insister sur l'importance, le caractère propre et exclusif du sacerdoce ministériel, celui des prêtres, donc cette insistance-là, fait que l'on parle peu de cet autre sacerdoce d'ordre spirituel qui est commun à tous les chrétiens. Justement, pour ne pas, tomber peut-être dans l'erreur protestante, pour lesquelles, effectivement, tout le monde est prêtre. Alors c'est vrai jusqu'à un certain point, mais pas trop loin. Alors, pour ne pas donner trop de, je dirais, d'arguments aux protestants un petit peu contre l'Église catholique, moi, on hésite à parler avec trop d'insistance, oui, sur ce sacerdoce commun à tous les chrétiens. Oui, et pourtant, et l'auteur continue, beaucoup sans doute croiraient usurper et s'arroger un titre qui ne leur appartient pas s'ils s'arrêtaient à considérer la dignité royale et sacerdotale que leur a conférée le baptême. Et pourtant, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous voulez? Et nous parlions, je crois, nous allons parler de cette onction de Saint-Crème. Et cette onction du Saint-Crème que l'on fait sur la tête de l'enfant après son baptême, qu'est-ce que c'est que le Saint-Crème? C'est bien l'huile des consécrations. C'est l'huile des consécrations, c'est l'huile royale. Oui. L'huile des consécrations dont on se sert donc pour sacrer les évêques, dont on se sert pour consacrer les calices, les patènes, dont on se sert pour consacrer les églises, les cathédrales, c'est le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est l'huile des consécrations. Et cette onction que l'on fait sur la tête de l'enfant, bien le consacre, prêtre. Alors, de ce sacerdoce commun qui lui permet justement bien de tenir un petit peu son rôle dans l'offrande du sacrifice de l'Église. Il n'est pas un spectateur, le baptisé n'est pas un spectateur, il est un acteur. Ce sacrifice qui s'offre à l'autel, eh bien, le baptisé qui est là l'offre d'une certaine façon également. Eh oui. Et certains pères de l'Église parlent de cela et... Tout ça doit nous emplir non pas de vanité, d'orgueil, mais de fierté, de joie, de reconnaissance quand même. Que le bon Dieu soit allé jusque-là, hein, c'est extraordinaire. Hein. Voici ce que dit Saint Cyril de Jérusalem. Quand vous êtes remonté de la piscine sacrée, on vous a donné le crème, symbole de celui dont fut oint le Christ. Ainsi, marqué et imprégné du Saint Crème, vous recevez le titre de chrétien. C'est grâce à cette régénération que se vérifie en vous cette appellation. Saint Augustin, le nom du Christ dérive de crème, c'est-à-dire d'onction. Tout chrétien est ainsi oint pour lui faire comprendre qu'il participe à la dignité sacerdotale et royale. Saint Isidore de Séville, c'est parce que nous sommes une race royale et sacerdotale qu'après l'ablution, nous recevons l'onction. Elle nous fait participer au titre du Christ. Eh oui, voilà, vous êtes tous prêtres. Bon, distinguons, hein, bon là ça serait peut-être un peu trop long, hein, distinguons bien toujours, bien sûr, le sacerdoce ministériel, donc ceux qui sont prêtres, ministres, et le sacerdoce qu'on appelle commun, bon, qui fait de vous des participants au sacrifice, mais non pas, bien sûr, le ministre du sacrifice. C'est ce qui fait dire à Saint-Pierre... Alors, il est sûr qu'aujourd'hui, ça on l'entend dire chez les autres, hein, ça se chante sur tous les tons, hein, dans toutes les musiques. Hein, vous êtes la race royale, la race sainte, le sacerdoce royal, un sacerdoce saint. Eh oui, peuple de prêtres, peuple de rois. Eh oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas en abuser quand même. Hein, bon, chacun a sa place. Hein, mais c'est vrai. Et cette, donc nous parlions du sacerdoce auquel vous participez, mais également la royauté du Christ. Hein, le chrétien est roi. Vous êtes roi. Vous êtes roi. Oui, oui, roi du monde. Vous voyez, c'est là un autre auteur encore. C'est chose magnifique, moi. C'est beau, quand même. Ça évoque une petite question un peu annexe, mais qui, je crois, est tout à fait dans la... Nous sommes rois, vous voyez, nous serons appelés un jour à juger le monde. Vous savez, notre Seigneur nous a dit ça. Hein. Un jour, nous aurons à juger le monde. Et Et les apôtres qui demandent à notre Seigneur un jour, il lui pose cette question, mais nous qui avons tout quitté pour vous suivre, qu'est-ce qu'il en sera pour nous? En vérité, pour vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénération, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez aussi assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Un jour, nous jugerons le monde entier. Nous, bon, nous, disons, nous. Les baptisés, les sauvés, tous ceux qui auraient été fidèles, eh bien, nous serons assis autour de Jésus-Christ pour juger le monde avec lui. Dites donc. Comme pas, c'est pas rien, ça. Hein. Et parce que déjà maintenant, eh bien, cette sorte de royauté ou de gouvernement, d'autorité sur la terre, sur le monde, eh bien, il est en nous, nous avons de quoi, justement, eh bien, juger le monde. Attention, hein. Passons pas notre temps à juger le voisin, ça c'est un autre problème. Ouais. Mais ça évoque une autre question, et je n'ai rien contre les avocats, les notaires, les juges, etc. Mais faire attention. Vous voyez, c'est saint Paul, vous connaissez peut-être ce passage de la première épître aux Corinthiens. Et saint Paul donne une sorte de petit conseil ironique aux Corinthiens. Vous voyez, il y avait des litiges, ils se disputaient entre eux. Bon, ma foi, enfin, c'est pas la première fois ni la dernière, sans doute, que ça arrive aux baptisés, d'avoir des litiges, des disputes, etc. Et ils avaient demandé, bien, tout simplement, aux tribunaux civils, là, qui étaient là, séculiers, bien, de trancher. Dans leur litige, alors saint Paul, ben, les met un petit peu en boîte et dit, bon, ben, écoutez, puisque vraiment c'est ce que vous voulez, ben, prenez les plus bêtes parmi vous pour vous juger, quoi. Et justement, il se réfère à ce qu'a dit notre Seigneur, voyez. Voici ce qu'il leur dit, en gros. Voici ce qu'il leur dit, pardon. Comment se trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui, ayant un différend avec son frère, ose l'appeler en jugement devant les infidèles, devant les méchants, dit-il. Comment vous êtes baptisé, un jour vous aurez à juger le monde, et vous demandez à un infidèle de vous juger. Mais, pourquoi je vous ai baptisé alors? À quoi ça sert? Enfin, ça fait logique quand même. Hein. Donc, comment ose l'appeler en jugement devant les méchants et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints doivent un jour juger le monde? Si donc vous devez juger le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Puisqu'un jour vous aurez à juger le monde, mais vous ne pouvez pas vous débrouiller un petit peu entre vous, porter le jugement comme ça entre vous, juger ces choses mesquines, etc. Un jour vous aurez à juger les 12 tribus d'Israël et vous n'êtes pas fichu de juger ce petit bidule-là. Mais comment voulez-vous faire ce jour-là alors? Bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais en gros c'est ça. Et oui. Alors ne savez-vous pas que nous serons juges des anges même? Nous aurons à juger les anges. Piou, disons. Heureusement, le jugement déjà fait par Jésus-Christ, ça va bien, mais enfin, voilà. Donc, combien plus de ce qui regarde la vie présente? Enfin, si nous aurons à juger tout cela, alors, combien plus ce qui regarde la vie présente? Si donc vous avez des différends touchant les choses de cette vie, prenez pour juge bien les moindres personnes de l'Église. Prenez les plus belles parmi vous. Et ils doivent être tout à fait capables de juger ça, puisque eux aussi jugeront les anges, alors quand même. Bon. Je vous le dis pour vous en faire confusion, s'il leur fait honte un petit peu. Est-il possible qu'il ne se trouve point parmi vous un seul homme sage qui puisse être juge entre ses frères? Mais on voit un frère plaider contre son frère et encore devant les infidèles. C'est impensable, chose pensable. Il y avait autrefois des tribunaux ecclésiastiques, et aujourd'hui c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est devenu, mais je ne crois pas que ça marche beaucoup. Mais c'est sûr que c'est une chose qui en soi ne doit pas se produire. C'est impensable, vous voyez, que des baptisés se fassent des procès. Ça. Et à y demander justement à des infidèles de trancher dans un différend entre eux, alors qu'un jour nous aurons à juger le monde. Voilà. Vous voyez, toute cette doctrine de l'Évangile, c'est lourd de conséquences. Hein. Si vraiment on est chrétien... Mais ma foi, ça peut arriver qu'on ait des litiges, on essaie de s'arranger entre soi, et puis si vraiment on n'y arrive pas, on demande à un copain de faire l'arbitre un petit peu, allez, mettez-nous d'accord, puis qu'on trouve une solution, puis voilà, ça y est, entre baptisés, ça va bien, c'est pas des affaires d'État quand même, tout ça. Et si on n'est pas fichu de se débrouiller comme ça, vous savez, on ne pourra jamais juger les tribus d'Israël, c'est clair ça. Et à ce moment-là, on restera en bas, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si on ne peut pas porter le jugement, on ne sera pas mis les juger. Bon, voilà. Et oui, les justes, vous voyez, c'est très beau tout ça, c'est dans le livre de la sagesse, cela. Les justes brilleront comme le soleil, ils étincelleront comme des feux qui courent au travers des roseaux desséchés. Ils jugeront les nations, ils domineront les peuples, et leur Seigneur régnera éternellement, et ils régneront éternellement avec lui. Et oui, le baptisé est prêtre, le baptisé est roi. Alors, voyez un petit peu notre... Quelle doit être notre attitude, justement, dans les affaires du monde, hein. Attention, le baptême nous a situé tellement là au-dessus de tout cela. Bon, bien sûr, il faut vivre dans le monde, il faut traiter les affaires du monde, mais comme des baptisés, pas comme des non-baptisés, pas comme des infidèles. Vous voyez, tous ces trésors de l'Église. Et ensuite, il y a bien sûr les lois de l'Église. Et les lois de l'Église, c'est un privilège, ça. Et oui, c'est contraignant, la loi. Et oui, mais c'est un privilège quand même, bien sûr. Bien sûr, si on regarde ça par le petit bout de la lorgnette, hein, on peut parfois envier un petit peu la liberté des non-baptisés. Oh, qu'ils ont de la veine, cela. peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller faire du ski le dimanche, ils peuvent rigoler, faire les imbéciles, boire un coup tant qu'ils veulent. Je sais pas quoi, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Ben, je crois pas qu'il y ait tellement à les envier. Et nous, sans doute, nous avons des lois, mais c'est un peu comme des rails, qu'est-ce que vous voulez? Ben, un petit peu. Mais si vous voulez que le train il aille à Martigny, ben, il faut qu'il suive les rails. S'il sort des rails, vous n'arriverez jamais à Martigny. Mais même, je pense qu'il y aura des petits problèmes en plus. Ouais. Et il nous faut des rails, si vous voulez. En plus, nous avons le péché originel, vous le savez. Hein. Et si nous n'avons pas des guides, des rails, des garde-fous, après ça, comme vous voudrez, peu importe, ce ne sont là que des images, vous voyez, bien, nous risquons fort de ne jamais parvenir au but. Et donc, nous avons besoin de ces lois. Et ces lois, précisément, il ne faut pas les considérer que comme des contraintes ou des entraves à notre liberté, mais c'est vraiment des aides, vous voyez, des aides pour soutenir notre faiblesse, pour guider un petit peu notre aveuglement, etc. Et toutes ces lois n'ont pas d'autre motif que de notre bien. Et ça, c'est une chose qui est importante, je crois, à bien réaliser pour nous-mêmes, pour les enfants, pour tous ceux dont nous avons peut-être à faire l'éducation, vraiment leur faire comprendre que ces lois de l'Église, ces contraintes, ben, ce ne sont que des expressions de sa tendresse, des expressions de son amour pour nous. L'Église ne veut pas que nous défaillions en route, elle ne veut pas qu'on tombe en route, qu'on tombe en chemin. Alors elle sait très bien que si elle nous laisse faire, eh bien, ma foi, on n'ira jamais demander la grâce du bon Dieu, on n'ira jamais lui demander pardon, on n'ira pas à la messe, on n'ira pas communier. Naturellement, on préférerait aller faire autre chose. Ouais. Alors elle nous en fait une obligation. Elle nous oblige à aller à la messe le dimanche, à communier, à Pâques, à nous confesser une fois l'an, etc. Elle nous fait des obligations. Avec ça, au moins, je dirais, elle se dit, ben avec ça, ils auront au moins le minimum, vraiment le strict minimum dont ils ont besoin. Elle encourage à en faire plus, hein, c'est évident, mais au moins, il y a des obligations. Elle nous interdit d'aller en dessous, parce que si on descend en dessous de ce niveau, eh bien, on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est tout. Et si l'Église nous fait des obligations, c'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous contraindre, c'est tout simplement pour que nous soyons attentifs à prendre les moyens dont nous avons strictement besoin, hein, sans lesquels, eh bien, nous n'arriverons jamais au but. Et c'est pareil dans l'éducation, je pense, hein, tous les parents qui sont ici le savent, parfois, ben, faut utiliser un petit peu la contrainte avec les enfants. Mais sinon, ils feront pas le bien qu'ils doivent faire. Donc on utilise un peu la contrainte, et c'est très bien, et il le faut. Et bien l'Église fait pareil, elle nous contraint, elle a des lois qui ne sont pas toujours des contraintes, mais qui sont au moins des indications, elle nous montre la route. Hein. Et vous avez dans l'Écriture sainte un texte qui est magnifique, c'est le psaume 118. Allez lire le psaume 118, ouais, nous au bréviaire, nous le disons le dimanche. Ouais. Il est tellement long qu'il occupe toutes les heures de l'office du dimanche, ouais, depuis... Tiers, sexe, non, oui, c'est ça. C'est un psaume qui est très très long. Et tout ce psaume, eh bien, est consacré à chanter la beauté de la loi de Dieu. C'est un psaume qui est magnifique, vous voyez. Votre loi, Seigneur, est un flambeau devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Vos préceptes m'ont donné l'intelligence. Eh oui, les préceptes de Dieu, eh bien, nous forment l'intelligence. Ils nous donnent l'intelligence des choses de Dieu. Ils nous montrent un petit peu où est la vérité, où est le bien, vous voyez. J'ai été plus avisé que les vieillards parce que j'ai recherché vos commandements. Et toujours cet amour de la loi, cet amour des commandements de Dieu, parce que cette loi, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder les lois de l'Église. Eh bien, ce sont des expressions de l'amour de Dieu. Hein. Donc, les lois de l'Église, qui sont tant qu'un bienfait pour nous. Également, la doctrine de l'Église, c'est bien évident, ça. Tout cet enseignement de l'Église. L'Église nous enseigne, en toute certitude, ce que nous devons croire et ce que nous devons faire. Bon, c'est un bienfait énorme que nous possédons, nous, baptisés. Il n'y a qu'à nous que l'Église enseigne cette vérité. Elle la propose à d'autres, bien sûr, elle la propose à tout le monde, mais combien l'acceptent? Et nous, baptisés, bien, cette doctrine est la nôtre. Avec cela, bien, nous savons où est la vérité. Nous savons ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Nous le savons en toute certitude. Même si je ne comprends pas toujours le pourquoi. C'est égal. C'est égal. C'est la vertu de foi. Et la vertu de foi se fonde sur quoi? Non pas sur le fait que je comprenne, que j'ai compris, que oui, ça, ben oui, c'est bien, c'est intelligent, ça me plaît, donc je vais le faire. Non, la vertu de foi se fonde uniquement sur l'autorité de Dieu qui révèle. Et sur l'autorité de l'Église, hein, qui est mandatée par Dieu et qui est assistée par Dieu de ce privilège de l'infaillibilité. Voilà. Et quand l'Église enseigne, en tant qu'Église, bien sûr, par son magistère véritable, etc., mais à ce moment-là, je suis sûr que la vérité est là. Parce que c'est Dieu qui parle par l'Église, c'est Jésus-Christ qui parle par l'Église. Oui. Eh oui, ce sont des trésors, ça. Et là aussi, il y aurait bien des conséquences. Hein, vous savez, pour chacune de ces choses, hein, il y aurait 1000 applications à faire, mais je vous les laisse faire. Hein. L'amour, par exemple, l'amour de la doctrine de l'Église. Il faut vraiment aimer la doctrine de l'Église. Il faut connaître la doctrine. Il faut l'étudier, la doctrine de l'Église. Bon, c'est ce que nous faisons ici un peu, mais il faut que chacun le fasse aussi de son côté. Hein. Prendre des enseignements de l'Église, les enseignements des papes, des conciles, etc., le catéchisme, et puis voilà, il vraiment se pénétrer un peu plus de toutes ces vérités enseignées par l'Église, mais pour jouir de cette aide de l'Église. Ouais. Mais, enfin. Ensuite, autre trésor, autre bienfait qui nous vient de l'Église, eh bien, bien sûr, ce sont les sacrements. Et tous ces sacrements, là, c'est clair, hein, c'est 7 sacrements, du moins les 6 autres, puisque le premier, c'est le baptême, et c'est lui qui nous introduit aux 6 autres. Mais réalisons bien que les 6 autres sacrements ne peuvent être conférés qu'à ceux qui sont baptisés. Hein. Le baptême, c'est la porte des sacrements, c'est le premier des sacrements. Et un autre sacrement qui serait donné à un non-baptisé ne lui servirait strictement à rien, à rien, à rien. Un non-baptisé irrécommunié, ça ne lui servirait à rien. Il irait se confesser, ça ne lui servirait à rien. La grâce ne peut pas pénétrer une âme qui n'est pas incorporée à l'Église, qui n'est pas incorporée au corps de notre Seigneur. Et ça, c'est le baptême qui réalise cette incorporation. Donc, pour recevoir les sacrements, les fruits des sacrements, bien sûr, il faut être baptisé. C'est ce que dit le Concile de Trente. Le décret aux Arméniens même disait, oui, qu'il est la porte de la vie spirituelle. Rien n'est possible sans le baptême. Et sans lui, dit le Concile de Trente, donc, la pénitence ne peut pas être un sacrement validement reçu. Bien sûr, on peut recevoir une absolution, mais elle n'aura pas d'effet, ce qui n'est pas valide. Un non-baptisé absous, en fait, il n'y a pas d'absolution. C'est invalide, cela. Il faut être baptisé pour cela. Hein. Bon, vous pouvez prendre tous les sacrements, hein, ça c'est égal. Tous, ça nécessite comme introduction, eh bien, d'abord d'être incorporé au corps du Christ. Celui qui n'est pas incorporé ne peut pas recevoir cette vie. Hein. Tous ces sacrements sont des moyens de vie. Et pour vivre de la vie du corps, eh bien, il faut être membre du corps. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, moi. Bon, on n'a pas de certitude là-dessus, mais enfin. C'est une des raisons pour lesquelles, je pense, notre Seigneur a dû baptiser sa mère. Et oui, la Sainte Vierge. Il fallait bien qu'elle soit baptisée, comme sinon elle ne pouvait pas communier. Et les apôtres. Comment ils auraient fait pour communier, pour recevoir le sacerdoce? Notre Seigneur va en faire des prêtres, des évêques. S'ils n'étaient pas baptisés, sans doute. Bon, on n'a pas de traces dans l'Évangile, bien sûr, ce n'est pas révélé, mais ça paraît plus que probable, hein, que notre Seigneur a baptisé ses apôtres et même sans doute sa Sainte Mère, hein, pour qu'elle puisse recevoir la communion des mains de Saint Jean, peut-être. Ou, hein. Bon, là-dessus, il n'y a pas de certitude, hein, ce n'est pas un enseignement de foi, mais c'est très, très, très probable. Ouais. De toute façon, voyez, si la Sainte Vierge n'était pas baptisée, elle n'aurait pas le caractère baptismal. Vous voyez? Et oui, c'est le baptême qui donne le caractère baptismal. Donc la Sainte Vierge n'aurait pas le caractère baptismal. Elle serait le seul membre de l'Église à ne pas avoir le caractère baptismal. Bon, quand même, pas bien ça. Et si elle n'a pas le caractère, elle n'est pas incorporée au corps du Christ. Quand même, ça ne va pas. Donc il faut qu'elle ait le caractère, c'est clair ça. Donc il faut qu'elle ait reçu le baptême. Bon, pour moi, ça me paraît tout à fait évident. Hein. Et oui, oui. Bon, puis tous les privilèges des autres sacrements. Hein. Ça, c'est le sacerdoce, le mariage, etc. Oui. Quelqu'un qui n'est pas baptisé n'est pas habilité, eh bien, à recevoir ces autres sacrements. C'est le sacrement qui rend possible. C'est le baptême, hein, qui rend possible les autres sacrements. Ce n'est pas lui qui produit les effets des autres sacrements, bien sûr. Chaque sacrement va produire ses effets propres, mais c'est le baptême qui rend possible les effets de chacun de ces sacrements. Et le baptême, en fait, donne au baptisé bien, le pouvoir de recevoir tous les autres sacrements. Vous voyez, c'est le caractère donne ce pouvoir de recevoir les autres sacrements. Le caractère sacerdotal, lui, donne le pouvoir de donner les sacrements, et de faire les sacrements, de fabriquer, si on peut dire, les sacrements, et de les donner. Mais le caractère baptismal, lui, donne le pouvoir de recevoir les sacrements. Et donc, caractère baptismal est plutôt passif, si vous voulez, pour recevoir les sacrements, alors que le caractère sacerdotal, lui, est plutôt actif, hein, pour donner les sacrements, pour réaliser le sacrifice de notre Seigneur et ensuite donner les sacrements aux âmes. Le caractère de la confirmation, lui, il est un peu entre les deux. C'est un truc un petit peu particulier. Il est un peu actif déjà, quand même. Il est déjà un petit peu actif, parce que le caractère de la confirmation débute à confesser la foi. Donc, c'est quand même exercer une certaine activité, non pas à enseigner la foi, attention. Hein. Le confirmé n'est pas... La confirmation ne donne pas le droit, le pouvoir d'enseigner, mais de confesser la foi. C'est pas pareil. Hein. Confesser la foi et proclamer sa foi aux yeux du monde. Et ça, c'est un pouvoir tout à fait actif, bien sûr. Donc, les sacrements, tout le trésor des sacrements. Et puis également les sacramentaux, qu'il ne faut pas oublier. Nous en avons parlé l'année dernière, je crois. Hein, les sacramentaux, hein, tout ce monde des sacramentaux. Et je ne dis pas que nous le méprisons, mais que parfois nous ignorons un petit peu. Toutes ces prières, ces bénédictions, ces consécrations, etc. On peut pratiquement tout bénir hein, dans l'ordre chrétien. Hein, dans l'ordre créé, on peut tout bénir. Et pratiquement un chrétien, un baptisé, bien, il faut... Tout ce qu'il utilise devrait être béni pour rester justement bien dans ce contexte chrétien. Voyez, parce que le démon, il peut se flanquer partout, lui. Eh bien, nous, mettons le bon Dieu partout. Bon, on consacre un peu tout ce qu'on peut. On consacre les maisons, on bénit les maisons, pas exagéré, non, mais enfin, on bénit les maisons, on bénit les voitures, on bénit les médailles, on bénit les croix, on bénit les animaux même. On peut bénir des animaux. Oui, hein. Quelques-uns, pas tous, mais ça dépend lesquels. Oui. Bon, on bénit les enfants, on bénit les femmes enceintes, les mères qui vont accoucher, on bénit les malades. Non, il y a mille choses qu'on peut bénir comme ça. Il ne faut pas avoir peur de faire bénir ce que vous avez. Il ne faut pas poser la question d'abord, voir si on peut effectivement le bénir. Oui. Mais on peut bénir mille choses comme ça. Et le chrétien vit au milieu d'objets bien qui portent l'empreinte de Jésus-Christ, au lieu de vivre au milieu d'un monde païen. Oui. Et même la question est de la sépulture religieuse. Bon, aujourd'hui, je crois que malheureusement, la chose est un peu, je ne sais pas quoi, mais enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais la sépulture religieuse, voyez, un non-baptisé n'a pas le droit à la sépulture religieuse. Bon, M. Mitterrand était baptisé, donc il avait droit à des obsèques religieuses. Sous ce rapport-là, du moins, maintenant, sous d'autres rapports, on pourra en discuter, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Mais là, la sépulture religieuse, hein, on ne peut pas enterrer pendant avec les cérémonies de l'Église, et dans un cimetière béni, on ne peut pas enterrer quelqu'un qui n'est pas baptisé. Si le cimetière a été béni, et qu'on y enterre un non-baptisé, le cimetière est profané. Eh oui. Un cimetière béni. Bon, si le cimetière n'est pas béni, bon, ça c'est autre chose, mais normalement les cimetières sont bénis, monsieur le curé, quand même, habituellement, il bénit les cimetières. Un cimetière béni, donc si vous y enterrez un non-baptisé, ou bien quelqu'un qui a été excommunié, tout ce qu'on peut imaginer, un païen, tout ça, eh bien le cimetière est profané. Il faut donc réconcilier le cimetière avant d'y enterrer des baptisés. Eh oui, voilà. C'est une terre sainte, un cimetière, c'est une terre sacrée, dans laquelle eh bien, reposent les corps des baptisés. Et c'est normal que la terre soit purifiée un petit peu. Voilà. Eh oui. Les indulgences également, tout ce trésor des indulgences qui appartient à l'Église. Les indulgences, c'est tout un monde, ce monde des indulgences. Hein. Les indulgences, c'est tous les trésors des mérites acquis par l'Église, par les enfants de l'Église, par les saints. Bon, tous ces mérites qui sont acquis par les saints, par l'Église elle-même, vous voyez, ben, l'Église, elle en dispose comme elle veut. Alors, sans doute, une part de ces mérites ont déjà servi, par exemple, pour ceux qui sont au paradis, sortir les âmes du purgatoire, très bien, ou pour obtenir des grâces pour tel ou tel baptisé, mais il y a encore mille autres grâces en attente, des mérites comme ça, qui sont à la disposition de l'Église, et qui ont été acquis par les efforts, les sacrifices, les prières des baptisés. Hein. Et l'Église, qui a le pouvoir de lier et de délier, de remettre et de retenir, etc., mais l'Église dispose de ce trésor. Et elle en dispose comme elle veut, donc c'est tout ce trésor des indulgences. Alors vous savez qu'il y a justement toute une codification, bon, à laquelle il ne faut pas être... Quand on dit telle prière 300 jours, attention, hein, ça ne veut pas dire 300 jours de purgatoire en moins, ou je ne sais quoi, ça c'est dans le purgatoire, on ne compte pas les jours comme ici-bas. Ça se réfère tout simplement à ce qui se faisait autrefois dans les premiers temps de l'Église, pour la réparation, la pénitence des pénitents publics. On leur donnait effectivement des pénitences comme ça, sous forme de jours. Vous voyez, alors ils étaient, par exemple, exclus pendant tant de temps, etc. Et ensuite, eh bien, quand l'Église leur accordait justement des indulgences sous forme de jours, on leur remettait donc leur pénitence pour temps et temps de jours. Alors l'Église a gardé un petit peu cette formulation sous forme de jours, mais c'est tout simplement pour montrer un petit peu la variété, l'ampleur ou l'intensité eh bien, des trésors, ouais, des bienfaits qu'elle accorde, qu'elle attache à telle ou telle prière ou à tel ou tel exercice. Ouais. Donc les indulgences, c'est ça. C'est une chose que l'Église a tout à fait le droit de faire. Ça lui appartient, c'est son trésor, et c'est notre trésor. Ça nous appartient. Il ne faut pas mépriser les indulgences, vous voyez. Il ne faut pas craindre d'essayer, justement, d'obtenir des indulgences. Indulgences partielles, indulgences totales, etc. Indulgences plénières. Et ma foi, bon, il faut être dans les conditions requises, c'est évident. L'indulgence plénière, c'est possible, hein, attention, il ne faut pas croire que ce soit impossible. Bon, mais voilà, hein, ce n'est pas très très fréquent. De gagner une indulgence plénière, mais au moins des indulgences partielles, ça bien sûr, voilà. Eh bien, ça nous obtient quelques bienfaits, peut-être quelques remises, justement, de la peine du purgatoire, etc. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas... On raconte, je ne sais plus très bien quelle est la proportion, que Pie XII, un jour donnant une bénédiction Urbi et Orbi à Saint-Pierre, donc, ouais, je ne sais pas combien de milliers de personnes sur cette place, là. On raconte que Pie XII, après avoir donné la bénédiction Urbi et Orbi, s'est tourné vers un de ses cardinaux qui était là et lui a dit « Savez-vous combien ont gagné une indulgence plénière ici ?» Et il lui a dit « 1, 2, je crois. Je ne sais plus très bien quel chiffre. » Bon, voilà, vous voyez que... ben, ma foi, peut-être des partiels quand même, au moins c'est déjà ça. Et il faut être en état de grâce. Alors l'état de grâce, bon, enfin, on y est plus ou moins, hein, c'est clair, mais être vraiment dans les dispositions requises pour obtenir l'indulgence plénière, c'est possible, mais d'après ce que Pie XII avait vu ce jour-là, semble-t-il, parmi les gens qui étaient rassemblés, il y a peut-être beaucoup de touristes ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien, mais ou des gens qui étaient là uniquement pour le spectacle et pas forcément pour la dévotion, hein, ça c'est bien clair. Bon, enfin voilà, oui, donc, mais ces indulgences, donc c'est une sorte de trésor de famille. Hein. Et puis enfin, le dernier bienfait, mais celui-là il est tellement beau, tellement vaste que... Je ne ferai guère que le mentionner, ou à peu près, oui. Eh bien, c'est la communion des saints. Il ne faut pas l'oublier, c'est à la communion des saints. Nous le disons dans notre credo. Hein. Je crois à la communion des saints. Nous y croyons, à la communion des saints. Et ça, c'est cette grande famille, ouais, qui s'établit, ce lien de famille qui s'établit entre tous les membres de l'Église. Les membres de l'Église militante, l'Église souffrante, l'Église triomphante. Là, hein. Voilà, c'est tout cela, mais c'est... Il y a un immense lien de famille qui s'établit entre tout cela. Et eh bien, tout passe de l'un à l'autre. Bon, bien sûr, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, pour les saints, on ne peut rien faire pour eux, c'est évident. Mais eux peuvent beaucoup faire pour nous, c'est clair. Oui. Nous pouvons faire quelque chose pour les âmes du purgatoire, c'est clair. Elles ne peuvent pas faire grand-chose pour nous. Oui. Mais c'est cette donc circulation des biens entre tous les membres du corps. Oui. Tous ces biens qui circulent, bon, par le seul fait d'abord du caractère baptismal, et en plus, bien sûr, par la grâce. Ouais. Et alors, on peut... Ouais, c'est, bon, il ne s'agit pas de faire une classification nominale hein, dans tout cela, c'est évident, mais on peut un petit peu, justement, vous voyez, essayer de grouper les hommes entre... On peut considérer que les hommes appartiennent à quatre catégories. Ouais. Il y a d'abord ceux... Ça existe, hein. Des hommes qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont pas le caractère baptismal, et qui sont pourtant en état de grâce. Il y en a. Voilà, ça, c'est les mystères de Dieu, les mystères de l'Esprit-Saint, hein, de la droiture d'une âme qui correspond aux grâces qu'elle a reçues de Dieu. Il peut y avoir des âmes qui sont effectivement en état de grâce, sans avoir été baptisées. Des âmes qui vivent dans la charité de Dieu, dans l'amour de Dieu. Eh oui, ça c'est... Bon, je ne peux pas vous dire qui, hein, ça c'est... Dieu seul le sait. Ouais, cela peut arriver, cela arrive grâce à Dieu. Donc il y a première catégorie, des âmes en état de grâce qui n'ont pas été baptisées, qui donc n'ont pas le caractère. Il y a ensuite une catégorie qui, eux, ont été baptisées, qui ont le caractère baptismal, mais qui n'ont pas la grâce. Là, ça existe aussi, ça. Soit parce qu'ils ont commis un péché mortel, donc ils ont perdu la grâce, ouais. Ils ont donc toujours le caractère, mais ils ont perdu la grâce, soit parce que, ben, comme nous le disions tout à l'heure, il y avait un empêchement. Le jour de leur baptême, il y avait une mauvaise disposition qui fait bien qu'ils ont reçu le caractère, mais pas la grâce du baptême. Donc ils ont le caractère, mais pas la grâce. Bon, deuxième catégorie. Troisième catégorie, ben, sont ceux qui n'ont ni le caractère, ni la grâce. Malheureusement, il y en a, ça aussi. Hein. Ils n'ont jamais été baptisés et ils ne sont pas en état de grâce. Ce sont tous les infidèles qui vivent dans le péché. Bon, là, Dieu sait quel est leur nom, moi je n'en sais rien. Vous voyez, donc c'est trois premières catégories, puis enfin, la quatrième catégorie, j'espère que c'est la nôtre, hein. La quatrième catégorie, ce sont les baptisés, ceux qui ont reçu le caractère, qui ont le caractère et qui le garderont dans l'éternité, qui donc sont incorporés au Christ, incorporés à l'Église par le caractère, mais également par la grâce, qui sont en état de grâce. Donc les baptisés qui ont le caractère et qui sont en état de grâce, ceux-là appartiennent véritablement à l'Église, dans toute la plénitude du terme, et ce sont ceux-là seulement qui participent à la communion des saints. Pour participer à la communion des saints, il faut avoir le caractère et la grâce. Vous voyez, les premiers, par exemple, ceux qui seraient en état de grâce sans avoir été baptisés, ceux-là ne jouissent pas de la communion des saints. Toujours pareil, revenez toujours un petit peu à la même question, ils ne sont pas incorporés. Ils ne sont pas membres du corps, donc il n'y a pas cet échange de biens spirituels entre tous les membres du corps. Ils ont la grâce. Donc ils seront sauvés, certainement, mais ils ne peuvent pas bénéficier de cette circulation, si on peut dire, de biens, qui se fait entre les membres du corps. Seuls peuvent bénéficier de cette circulation, de cet échange de biens, ceux de la quatrième catégorie, ceux qui ont le caractère et qui sont en état de grâce. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, savoir que nous ne sommes jamais seuls. Et le baptisé n'est jamais seul. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. On peut être dans la plus profonde misère, l'abandon, la solitude, la souffrance, tout ça. Le baptisé, il peut se dire qu'il n'est jamais seul. Jamais. Mais non. Il a avec lui, tous les saints du paradis. Il a toutes les âmes saintes de la terre, même. Et oui, toutes les âmes en état de grâce de la terre, sont avec lui. Et elles prient pour lui, elles intercèdent pour lui. Le prêtre à l'autel, est son ministre. Cette âme-là, abandonnée, perdue dans un coin, qui est ignorée de tout le monde, le prêtre à l'autel, sans le savoir, il est son ministre, son ambassadeur auprès de Dieu. Il intercède pour elle. C'est extraordinaire, ça, la communion des saints. Et c'est une chose sur laquelle il faut vraiment nous appuyer, nous fonder. C'est pour nous un réconfort inouï, cela. Nous ne sommes jamais seuls. Le chrétien n'est jamais seul. Non seulement le baptisé peut recevoir, mais il peut aussi donner. Il peut aussi donner. Mais oui, parfois, nous ne pouvons rien faire. Elles peuvent trouver au fond de leur souffrance cet encouragement de se dire que par leur baptême, par le caractère de leur baptême, par la grâce qui est en elles, elles peuvent beaucoup pour l'Église. Elles peuvent beaucoup pour les âmes. Mais oui, c'est cette offrande d'elles-mêmes qu'elles peuvent faire, peuvent obtenir pour l'Église, pour les âmes, des grâces qu'elles ne savent pas, qu'elles ne connaîtront peut-être jamais. Si, là-haut, quand elles arriveront là-haut, là, elles verront justement. À quoi a servi leur sacrifice? Pourquoi elles ont souffert? Elles n'ont pas souffert en vain. Alors, ce grand mystère de la communion des saints, soit pour recevoir, soit pour donner. Un jour nous donnons, un jour nous recevons, vous savez, c'est comme ça tout le temps. Quand on est en forme, on peut donner un peu. Puis un moment où on sera un peu moins en forme, à ce moment-là, c'est les autres qui donneront. Relisez les épîtres de saint Paul, où il parle de ce mystère du corps, justement, cet échange entre les membres, et quand un membre souffre, c'est tous les autres membres qui viennent à son secours, etc. Et quand un membre est bien portant, c'est tout le reste du corps qui en reçoit une vigueur nouvelle, etc. Voilà ce qui se passe au sein de l'Église par ce grand mystère de la communion des saints. Voilà un peu tous ces trésors dont nous sommes bénéficiaires par le baptême, par l'incorporation à l'Église. Cette largesse du bon Dieu, tout ce qu'il donne comme ça, uniquement, pouf! Quelques gouttes d'eau sur le front de l'enfant, et voilà tous ces trésors qui lui sont accordés sans qu'il ait fait le moindre effort pour cela. Quand même. Et on dira que le bon Dieu n'est pas bon. Après, alors, qu'est-ce qu'il nous faut?